Spectre is haunting Europe, the Spectre of Communism.
Le dimanche 15 octobre avait lieu à Reims la fête régionale de lutte ouvrière. Il y eut des moments festifs, mais aussi des débats et des présentations, dont la présentation de l'ouvrage Les socialistes en France de 1871 à 1914. C'est à Thomas Rose que l'on doit ce livre, ce récit. Il est paru en 2 tomes, au printemps dernier, en avril précisément, aux éditions Les Bons Caractères dans la collection Éclairage. Mais dans le hall de la salle Rossini, à Reims, Thomas Rose va commencer sa présentation. Hâtons-nous.
Ce bouquin, il va de la guerre de 14 où il y a la trahison de la social-démocratie qui rallie l'Union sacrée et qui... Même les principaux dirigeants, comme Jules Guesde, vont passer même au gouvernement pour soutenir leur bourgeoisie nationale. Il y a eu très peu de militants en France. Ils appartenaient à l'anarcho-syndicalisme. Et en Allemagne, il y avait le socialiste allemand qui s'est fait connaître, Karl Liebknecht, ou Rosa Luxembourg, qui se sont opposés à la guerre. Mais c'était une toute petite minorité. Alors, avant de passer un peu aux caractéristiques du mouvement socialiste en France, Faut voir que la France est un pays encore fortement rural, où la classe ouvrière, en plein développement, mais encore minoritaire, où vous avez encore des traces de la paysannerie, vous avez des ouvriers paysans. Donc, ça, c'est une caractéristique sociologique qui explique les conditions du début du socialisme en France. L'autre caractéristique, bien sûr, c'est la répression de la Commune, et c'est-à-dire l'écrasement de toute une génération de militants ouvriers, et... avec une période très réactionnaire où la France est dominée politiquement par des monarchistes et par ce qu'on a appelé les républicains opportunistes. Donc ce qui explique que pendant une dizaine d'années, le mouvement ouvrier a du mal à se relever. Et Adolphe Thiers, qui était le massacreur, le chef du gouvernement qui a massacré la Commune, disait en 77, juste avant de mourir, dans une profession de foi électorale, que on ne parle plus de socialisme en France et on fait bien. Alors, quelles sont les caractéristiques du mouvement socialiste français et comment il se redéploie? Tout d'abord, la première des choses, c'est qu'à partir de 1876-77, vous avez une reprise de la combativité ouvrière, qui n'avait jamais vraiment cessé, mais là, il y a des grèves offensives qui se battent sur les salaires et la réduction de la journée de travail. Ces grèves sont animées par des jeunes militants ouvriers, qui vont... prendre la grève comme une arme de combat. Et ce qui caractérise ces militants, c'est l'extraordinaire courage et dévouement, parce qu'ils subissent tout. Et bien sûr, le licenciement, mais aussi la misère, le chômage, la prison. Ils sont pourchassés par la police complètement et par le patronat. Mais ce mouvement ouvrier qui se développe va avoir une illusion électoraliste importante, surtout à partir de 1893. Et ce mouvement socialiste, on va dire, s'embourgeoiser progressivement, rentrer dans le rang. Et la réaction un peu épidermique de la classe ouvrière, ça va être le développement de l'anarcho-syndicalisme, c'est-à-dire de militants qui ne veulent pas rentrer dans la société bourgeoise. C'est ça qui est une première caractéristique. La deuxième difficulté auxquelles les socialistes sont confrontés, c'est, ça peut surprendre, c'est l'absence de compréhension des évolutions politiques et économiques, notamment de la part de ceux qui se réclament de Karl Marx. Et donc, ils ont du mal à voir les évolutions politiques et économiques qui se déroulent. Par exemple, au début des années 1880, ils sont persuadés qu'on est encore dans une période de montée du mouvement ouvrier, une période révolutionnaire, alors que la crise frappe la classe ouvrière et que le mouvement ouvrier va reculer fortement. Et donc, même, ils ont aussi du mal à voir les implications de la colonisation, ce que Lénine a appelé la phase impérialiste du capitalisme, bien sûr. Ils en dénoncent la violence, mais quelque part, ils arrivent à soutenir la colonisation en disant qu'on apporte à ces, entre guillemets, sauvages, une civilisation supérieure. Et même Guesde, qui était un socialiste révolutionnaire, défend la colonisation, il imagine même un Maroc socialiste, pour dire. Donc, et ils ne comprennent pas surtout quelles sont les implications de la phase impérialiste, c'est-à-dire d'affrontement entre les bourgeoisies occidentales pour la colonisation du monde. Et ça s'explique par la faiblesse de compréhension théorique de ces militants et surtout de ces dirigeants. car en fin de compte, très peu d'ouvrages sont traduits de Marx et d'Engels en français. Et une femme qui a été complètement oubliée, c'est Laura Lafargue, qui assure la première traduction du manifeste du Parti communiste, la compagne de Paul Lafargue. Et c'est elle qui va assurer d'ailleurs la traduction de la propagation de ses ouvrages de base du marxisme avec son compagnon Paul Lafargue. Et il y avait une phrase sympa d'Engels à son égard qui disait « Il y a une seule femme en France qui parle français et c'est Laura. » Parce que c'était la seule, comme étant fille de Marx, qui était capable de comprendre réellement avec toute la finesse et les nuances le marxisme. Alors que, en parlant de Guède, Marx disait, parlant de Guède donc, il disait « Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Hein » Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages traduits. Et donc, les premières victoires électorales des socialistes à partir de 1893 vont les amener à avoir l'illusion d'arriver au pouvoir par les élections. Hein, ils espèrent que d'élection en élection, ils vont gagner la majorité et qu'ils changeront les choses. Et ça va aller très loin. Et ils vont commencer à se dire qu'on peut transformer la République en République sociale et même en socialisme. Et que la République doit être défendue face à ses ennemis intérieurs mais aussi extérieurs. On va avoir une position sociale patriotique. Comme on a eu précédemment, on avait il y avait un parti colonial parmi les socialistes, il faut imaginer ça, des gens qui s'exprimaient pour la colonisation. Mais aussi donc avec des ennemis intérieurs, mais donc aussi des ennemis extérieurs. La rupture, un peu la ligne blanche qu'ils vont franchir, c'est l'entrée d'un socialiste au gouvernement avec Mirand en 1898. Et ça, c'est dans le cadre de l'affaire Dreyfus. À un moment, il y a des menaces, un risque potentiel de coup d'État, et Mirand, avec l'accord de Jaurès, rentre au gouvernement. Et là, c'est comme une frontière, c'est-à-dire rentrer dans un gouvernement de la bourgeoisie, pour des gens qui se disaient socialistes révolutionnaires, c'est de fait rentrer dans le rang, etc. Et donc, mais ça, c'est en fin de compte, ils vont tous, non pas tous, Jaurès va défendre... l'entrée de socialistes au gouvernement en disant « c'est le premier pas vers la conquête du pouvoir ». Non, c'est justement, Lafargue disait « un socialiste, s'il rentre au gouvernement, c'est pour qu'il laisse son socialisme à la porte ». Voilà, et la rupture, elle est là. Et comme on est dans une phase de prospérité relative de l'économie capitaliste, bon, pour les ouvriers, ça ne change pas grand-chose, pour la classe ouvrière en condition de vie, mais il y a un peu moins de chômage, un peu moins de misère, bon... Et donc, il y a une théorisation que, bon an, mal an, le capitalisme va aller naturellement vers le socialisme, et que c'est plus besoin de faire la révolution. Ça, c'est ce qu'on appelle le révisionnisme. Et ça se passe en Allemagne, ça se passe en France, où progressivement, Jaurès va prendre le contrôle de la SFIO. Parallèlement, pourtant, il y a la marche à la guerre, on en a parlé aujourd'hui dans notre débat et dans mon intervention à la fête, là. Il y a cette marche à la guerre que voient les socialistes. Mais en fin de compte, ils ne vont pas du tout chercher à s'y opposer, ils vont faire des appels à la paix mondiale, à la négociation internationale, au droit international, etc. Et ils ne vont rien éviter du tout. Ce qui est bête dans tout ça, bon, parce que ça va se finir par une guerre mondiale avec des millions de morts, c'est que pendant quelques années, on n'était pas loin d'avoir cette possibilité de créer un parti révolutionnaire communiste en France, un parti véritablement ouvrier révolutionnaire. On va dire, cette génération de 1880, de jeunes ouvriers, qui étaient prêts à aller décrocher la lune, à changer la société, ils vont se faire, pour des raisons sociales, par les dirigeants, parce que le Parti Socialiste change, ça devient un moyen de se faire élire, le Parti Socialiste, ça devient un moyen de rentrer dans la société pour une petite bourgeoisie intellectuelle, ils vont se faire déborder et ils vont laisser l'aspect révolutionnaire de plus en plus de côté. Mais c'est pas là, encore une fois, c'est pas, la fougue, l'envie, la détermination de cette génération de jeunes militants qui a manqué, c'est justement d'avoir des perspectives communistes et révolutionnaires. Dans ce livre, vous retrouverez notamment pas mal de citations de gens qui m'ont guidé dans cet ouvrage, que sont Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxembourg, Lénine et Trotsky, qui donnent un éclairage vraiment, et la collection s'appelle Éclairage justement, qui donnent un éclairage vraiment important sur cette période. Voilà.
Je voulais savoir comment était née l'envie de traiter de cette période.
À l'origine.
Comment ça a commencé l'histoire?
À l'origine, c'était des recherches que j'avais faites sur le mouvement ouvrier local qui m'ont amené à me passionner. Et quand la maison d'édition a proposé de sortir un ouvrage là-dessus, j'ai eu l'occasion de me proposer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à me passionner pour cette période.
Et qu'est-ce qu'on peut en tirer en 2023 quand on analyse cette période par rapport à ce qui se passe en 2023 et ce qui a pu se passer avant? Est-ce que ça peut nous permettre de comprendre des choses, d'avoir des enseignements pour la suite d'un point de vue historique comme militant?
Alors, surtout que en ce moment, avec la montée des tensions internationales, alors c'est jamais, l'histoire se répète jamais, mais on voit bien quand même que il y a cette marche à la guerre, on est en train de la vivre en ce moment. Et justement, de ne pas céder à l'unité nationale, de ne pas céder à l'union sacrée, que les travailleurs défendent leurs propres intérêts, bah c'est très important.
Et dans le livre, on parle évidemment plusieurs fois de Jaurès.
Oui.
Et quand on est étudiant, ou si on s'intéresse peu à l'histoire, finalement, le socialisme, on l'associe à Jaurès parce que c'est à peu près la seule donnée qu'on peut avoir, si bien sûr on ne s'est pas intéressé à cela, hein, évidemment. Un mot peut-être sur le personnage de Jaurès et ce qui nous est resté à l'heure actuelle et ce qu'il était et son implication.
Alors Jaurès a un courage personnel indéniable, c'est un grand tribun, un grand orateur, mais c'est un réformiste. Il aurait, à la fin du bouquin, je cite Trotsky justement, qui dit « Quel côté aurait-il choisi ? Indéniablement le côté de la bourgeoisie française, indéniablement le côté de l'union sacrée. » Bon, et c'est là où, comment dire, d'avoir une politique communiste révolutionnaire, c'est bien plus... On a oublié ce qu'était le mouvement socialiste. Jaurès a un peu, par sa figure de martyr, a un peu tout gommé.
C'était un peu ça le sens de ma question.
Ouais.
Est-ce qu'on a dévoyé le...
Pas dévoyé, mais on a oublié toute une partie du mouvement ouvrier socialiste révolutionnaire. Et ça, c'est ce que j'ai essayé un peu de montrer dans cet ouvrage, et notamment de ces ouvriers, ces jeunes ouvriers, je le répète, c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est leur dynamisme, comment ils se lancent pour changer le monde.
Un mot sur la maison d'édition ?
Oui, alors c'est une petite maison d'édition à Paris, à Pantin, qui essaye de faire dans l'histoire... Comment dire, les sujets économiques et historiques. Il y a toute une collection qui a été faite, hein, qui parle de différents sujets qui nous préoccupent, hein, aujourd'hui quand on est militant. Et il y a des grandes chances que j'aille présenter ce livre à l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT le 7 novembre. La maison d'édition vient de me dire que c'était une possibilité. Bon, donc pour la fête de l'humanité, bon, c'était possible aussi, mais bon, c'est venu à l'information trop tard. Mais... voilà, c'est une petite maison d'édition qui veut faire des petits ouvrages accessibles pour des personnes qui sont des militants, des sympathisants ou des militants du mouvement ouvrier, donc, qui se posent des questions sur l'histoire ou sur le fonctionnement de l'économie et de la société aujourd'hui.
C'est important d'avoir des connaissances théoriques, historiques, pour pouvoir militer.
Oui, bien sûr, c'est quand même... l'histoire ne se répète pas, je l'ai dit, mais il y a quand même des raisonnements qui peuvent nous apporter un éclairage justement sur les périodes que l'on vit. C'est, par exemple, le nationalisme est un poison pour le mouvement ouvrier. Croire que c'est par en s'alignant tous sur le même drapeau qu'on va réussir à changer notre propre situation d'ouvrier, je rappelle que c'est les pauvres gens qui se font tuer à la guerre. C'est jamais les riches, c'est jamais les capitalistes, ils sont bien planqués souvent à l'arrière, et c'est eux qui encaissent.
Nous reparlerons prochainement sur notre antenne de ce livre, du moins nous l'espérons, rester à l'écoute. Rappel, Les socialistes en France de 1871 à 1914, tome 1, Les tentatives de construction d'un parti de classe 1871-1898, tome 2, Du ministérialisme à l'union sacrée 1898-1914, maison d'édition Les bons caractères, collection Éclairage. Pour conclure, nous vous laissons en compagnie d'Elena Joss. Elle a proposé deux tours de chant lors de la fête régionale de lutte ouvrière, dont voici un petit extrait.
Paysans dont la simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la loi et la bonté des vins nouveaux. Paysans dont la simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la loi et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous, esclaves placides, dans un sillon où le sang luit, rester à piétiner au bruit des Marseillais et fratricides. Dans la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetière fleuri d'étoiles où nous enterrerons les dieux. Dans la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetière fleuri d'étoiles, où nous enterrerons les dieux. car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits, qui sous espoir de paradis, firent de l'enfer sur la terre. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent « je t'aime » dans un autre patois que nous. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent « je t'aime » dans un autre patois que nous. Et méprisons la gloire immonde, ces héros, porteurs de lauriers, ces assassins, ces flibustiers qui terrorisèrent le monde. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. Plus de morales hypocrites, dont les barrières chaque jour, dans le sentier des marguerites, arrêtent les pas de l'amour. Plus de morales hypocrites, dont les barrières chaque jour, dans le sentier des marguerites, arrêtent les pas de l'amour. Et que la fille mère quitte ce maintien de honte et de deuil pour étaler avec orgueil son ventre où l'avenir palpite. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. Semons nos blés, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil emplisse pour toutes nos bouches les piblons, le raisin vermeil. Semons nos blés, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil emplisse pour toutes nos bouches les piblons, le raisin vermeil. Et seule guerre nécessaire, faisons la guerre au capital, puisque son or, soleil du mal, ne fait germer que la misère. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux. Marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux.